Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi. Midi 14h sur RMC et RMC Story. 14h puisqu'ensuite, évidemment, le Tour de France sera avec nous, intégral Tour sur RMC. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Pierre Rondeau, économiste du sport, est là également.
Salut Rémi, salut à toutes et à tous.
Daniel Riolo, journaliste RMC.
Bonjour tout le monde.
Ça va Daniel?
Joie de vivre.
Bon, joie de vivre. Heureux de la victoire hier du Tour de France,
ne vous inquiétez pas, ça va démarrer dans quelques
minutes. Mais je sais, c'est comme l'équipe de France. Hein. Au bout d'un moment, ça finit toujours par taper hyper marqué. Et puis Amélie Rosic, journaliste RMC.
Salut Amélie. Salut à tous.
Allez, dans un instant, tout sauf Bardella à Matignon. Apparemment, c'est la nouvelle stratégie employée, en tout cas mise en avant par Emmanuel Macron. Est-ce vraiment responsable? On risque peut-être d'avoir une majorité relative, une assemblée peut-être bloquée. En tout cas, vous nous appelez au 32-16 à 12h30. Candidat sous curatelle, oui, il y en a un, dérapage en série. Faut-il s'attendre pour la future Assemblée nationale? Et puis à 13h, il paraît que les trains ne font pas le plein en ce moment pour cet été. Il y a beaucoup de places disponibles. Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Encore une fois, vous nous appelez au 32-16 et puis à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et évidemment, il est question d'euros et on joue folle.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister au quart de finale de l'équipe de France face au Portugal. Ça sera vendredi à 21h et on vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Hambourg bien évidemment, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC sur place avant la rencontre et bien sûr vos deux places pour France-Portugal vendredi à 21h. Dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Vos places pour France-Portugal se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
La consigne du jour, tout sauf le RN. C'est désormais la stratégie adoptée par l'Élysée, Emmanuel Macron, à l'approche du deuxième tour des élections législatives, avec un objectif, Paul, empêcher Jordan Bardella d'accéder à Matignon.
Oui Rémi, ce matin on décomptait près de 190 désistements de candidats arrivés troisième derrière un candidat Ensemble ou Nouveau Front Populaire dans une circonscription où le RN arrivait en tête. Alors si du côté de la gauche et du Nouveau Front Populaire, la démarche est quasiment automatique dans toutes les circonscriptions concernées. Emmanuel Bompard l'a annoncé ce matin sur RMC. Ils sont déjà entre 40 et 50 insoumis à s'être désistés. Du côté de la majorité présidentielle, certains doutes subsistent. Alors, dimanche soir, pour rappel, Emmanuel Macron avait appelé un large rassemblement clairement démocrate et républicain contre le RN. Quelques minutes plus tard, Gabriel Attal appelait lui tous les candidats à se retirer, même au profit de candidats insoumis. Finalement, du côté d'Ensemble, c'est le cas par cas qui semble être privilégié. Une attitude bien évidemment dénoncée par le Rassemblement National. Hier soir, Jordan Bardella dénonçait une alliance un peu contre nature entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Une alliance surprenante, une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dénonçait des désistements comme un mépris des électeurs, affirmant aussi que cette élection est une émancipation du peuple. Alors combien de triangulaires subsisteront? Réponse ce soir à 18h.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable? Vous nous appelez au 32-16. Amélie.
Moi, ça me donne un peu le sentiment du pompier pyromane qui aurait plus d'eau et qui sait plus comment éteindre le feu. Je parle pas du fond, je parle vraiment de la forme. Soit, effectivement, le RN ne doit pas gouverner du feu qu'il a allumé lui-même, d'où le pompier pyromane. Donc, le pompier pyromane qui a plus d'eau. Donc, soit le RN ne doit pas gouverner, et auquel cas, il faut se désister partout. Et en fait, il n'y a pas de cas par cas. La ligne, elle doit être claire. Et en fait, elle n'est pas si claire que ça, parce que tout le monde ne la suit pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas été dit de manière aussi claire. Soit alors, il décide de redonner la parole au peuple. C'est comme ça qu'il a justifié la dissolution. Et auquel cas, il y a des désistements nulle part. Et encore une fois, je ne parle pas du fond. Je parle juste de la ligne et d'afficher clairement ce vers quoi on veut aller et ce qu'on pense, et ça me semble pas être le cas aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommageable.
Comment tu expliques qu'en une semaine de temps, on soit passé du nini, avant le premier tour, c'était ni RN ni LFI, aujourd'hui c'est ni RN.
Tout simplement parce que je pense, je ne sais pas comment c'est possible, comment des stratèges politiques arrivent à ne pas anticiper les résultats d'élections, mais je pense qu'ils n'ont pas anticipé cette victoire relative, dirons-nous, du RN au premier tour des législatives.
Daniel Riolo, l'attitude aujourd'hui d'Emmanuel Macron est-elle irresponsable ?
En tout cas, il est responsable de tout. Il est responsable de ce marasme, il est responsable de cette France qui marche sur la tête, de cette désolation absolue, de l'indignité de tous ces politiques qui, en fait, depuis une semaine, ne parlent pas de programme politique, mais parlent simplement, comme si ça suffisait à faire un programme, d'être anti-RN. Donc c'est ça le dénominateur commun de gens qui se détestent, qui se sont tirés dessus pendant des années. Le spectacle le plus absolu de l'indignité étant sur les épaules d'un ancien président, parce qu'un ancien président, ça devrait avoir quand même une stature. Donc évidemment, je pense là à François Hollande, qui finalement fait alliance directe, indirecte, mais néanmoins, ça reste une alliance avec un fiché S, lui qui a combattu, qui a été au gouvernement quand on a eu les attentats terroristes en France. François Hollande s'associe à un candidat ouvertement pro-Hamas. De loin, c'est pas dans la même circo, certes, mais tous ces gens-là sont en train de se combiner entre eux. Le spectacle depuis une semaine, c'est des arrangements, des combinaisons, mais où sont les convictions? Où sont les lignes directrices? Mais moi, je m'en fous de tous ces arrangements. Moi, je m'en fous. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un parti qui dit, ben moi, je suis sur cette ligne. Et si on va avoir 40 députés, eh ben, on va en avoir 40. Si on en a 60, on en a 60. Si on en a 10, on en a 10. Mais au moins, on est fidèle à des convictions. Et on va pas s'associer avec n'importe qui, au prétexte qu'il faut faire barrage au grand méchant loup. Parce que ça fait 20 ans, moi, que j'entends que le seul programme pour une tonne de politique dans ce pays, c'est le grand méchant loup. Sauf que le grand méchant loup, depuis 2002, ben, il n'a cessé de progresser. Et il va probablement, à cause de tous ces arrangements et ces combines, accéder au pouvoir. Alors tous ces gens crient au loup, crient au loup, crient au loup. Bah, en Italie, ça n'a pas empêché Meloni d'accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Bah, elle gouverne, ça passera. Peut-être qu'elle perdra le pouvoir, peut-être qu'elle continuera à l'avoir. Mais tous ces gens-là qui auront fait toutes ces combines et ces arrangements, avec quelle face ils vont revenir devant les Français plus tard ? Mais qui ? Et j'ai parlé des arrangements et des combines, là, de Hollande et de pas mal de personnalités à gauche. Mais à droite, parce que le premier, ça a été Ciotti quand même, qui a rompu avec la tradition de son parti, avec l'histoire de son parti. Mais on les compte sur les doigts d'une main, finalement, ceux qui sont restés dignes et fidèles, parce que dans la foulée, il y a eu Glucksmann, qui alors lui, là, mais alors il est, mais c'est même pas dans le marigot qu'il a sombré.
Non, mais y compris la majorité présidentielle.
C'est dans la boue. Il ne reste finalement, très objectivement, il ne reste que Copé, Wauquiez et les LR qui étaient au gouvernement. Darmanin, Le Maire, qui assistent à ce spectacle, et eux, je les trouve plutôt digne dans ce bal des horreurs.
Je veux juste rappeler que la majorité présidentielle a fait campagne quasi exclusivement contre LFI avant le premier tour, et maintenant ça devient une campagne contre LFI, c'est incompréhensible. En fait,
on a l'impression c'est une impression d'avoir un joueur qui est en train de jouer et qui, à un moment donné, bah, il balance une carte et ça fonctionne pas, bah, il en cherche une autre, il en balance une autre.
Enfin. Mais dans quel but, Rémi? En fait, quel est le but de ça? Est-ce qu'on peut essayer, Pierre, comprendre s'il faut un but dans la vie quand
Pierre Rondeau.
C'est quoi? C'est de défendre un Marocain?
C'est un steak.
Cynique. Des fois, être cynique, et je voudrais pas jeter l'opprobre sur la vie politique française, mais je suis désolé. Daniel le rappelait, ça fait 20 ans, on pourrait même dire ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça, voire ça fait depuis la 5e République que ça fonctionne comme ça. C'est un jeu politique. C'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de coalition. C'est un jeu.
On peut ne pas accepter ça. Daniel, on a le droit d'avoir des convictions dans la vie.
J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'espérer cette défense des convictions et une quête effrénée pour des valeurs, pour des desseins forts. Je te rejoins là-dessus. Malheureusement, soyons pragmatiques, soyons très pragmatiques. Donc, peut-être très cynique, la vie politique française, parce qu'on a ce fonctionnement de la cinquième, parce qu'on a ce système qui t'oblige, après le premier tour, à soit te maintenir en triangulaire, soit laisser passer, soit te retirer au profit d'un camp qui était le total opposé de ce que tu étais. On a des LFI qui se retirent.
Mais tu peux pas, Pierre, aller vers des gens qui sont l'opposé de ce que tu es.
Désolé,
mais comment,
Daniel,
dans la vie, tu peux...
Daniel,
dans la vie, tu peux pas te comporter comme
Daniel,
ça.
Tu as des convictions, tu as des valeurs, et
mais
c'est
tu te retires,
à ton honneur.
Pierre, si toi, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas compliqué, au lieu d'aller t'associer. Mais reste chez toi. Moi, honnêtement, si dans ma circo, qui a été un bordel sans nom, dans ma circo, tu te retrouves avec trois LR, un ancien LR qui était passé chez Renaissance, mais
Au bout d'un moment, t'es pas, mais, t'es pas mais, content
avec,
de l'offre.
Et avec certains mais qui mettent LR sur leurs affiches.
Mais ne va pas t'associer avec le diable, reste chez toi.
Ce qui va compter, c'est tout sauf le diable, si on le
croit. Tout sauf Bardella à Matignon.
Il est là où chacun veut le voir.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable? Je vous pose la question et on va au 32-16 retrouver Mohamed. Bonjour Mohamed.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans le Val-de-Marne, c'est ça Mohamed?
C'est ça.
Bon, Emmanuel Macron est-il irresponsable?
Ah, il est responsable de A à Z. C'est-à-dire, je m'explique, moi, je suis électeur de gauche, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'il fasse ça, pourquoi pas. Mais limite, surtout qu'il se taise. Je m'explique, le type, il décide de dissoudre l'Assemblée. Personne ne lui a demandé de faire ça, il le fait. Très bien. Bah, tu prends cette décision, tu vas jusqu'au bout de ton truc. Mmh. Tu dis, je rends la parole au peuple. Donc, ferme ta gueule, mais ferme-la, tout jamais. Vraiment. c'est-à-dire, à un moment donné, tu laisses les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà. Après, pour les désistements, pas désistements, etc., on connaît les règles de la 5e République et un petit peu la focuserie, d'accord, de ce système. Mais moi, je connais pas de système parfait dans ce bas monde. Donc voilà, et c'est le système, il a l'image de l'humanité qu'on porte. Donc voilà, ça, c'est autre chose. Et après, chaque électeur vote en connaissance de cause. Et moi, j'en ai marre qu'on dise que je me désiste, donc l'électeur, c'est un mouton, il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Non, l'électeur, il est libre, il a une conscience, il est capable de choisir ou de ne pas choisir. Voilà,
c'est intéressant ça. C'est intéressant ce que dit Mohamed en plus, parce que c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière ici. C'était vendredi dernier, parce qu'on savait que la participation serait importante. Et on avait posé la question, est-ce qu'il faut remercier Emmanuel Macron de donner la parole aux Français? Puisque le soir du 9 juin, il dit, je vous fais confiance, j'ai décidé de vous donner la parole. Et depuis ce moment-là, on ne cesse d'avoir des injonctions de part et d'autre.
Une crédibilité à la parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Ouais. Je parle vraiment depuis les européennes et depuis la dissolution. On ne cesse de rappeler ses erreurs d'anticipation. Mmh. Effectivement, tu parlais des stratèges qui n'ont pas anticipé. Mmh. Voilà, on peut se poser la question de la crédibilité. Alors, j'irai pas remettre en cause son intelligence, hein, loin de là. Mais aujourd'hui, sa parole est quelque peu galvaudée.
Merci à Mohamed d'avoir été avec nous. C'est court, mais vous êtes nombreux. Je vais donner la parole à un maximum d'entre vous. Mohamed qui nous appelait depuis le Val-de-Marne. Là, on va en Nice. Retrouver Sam. Bonjour Sam.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sam, aujourd'hui c'est la nouvelle stratégie de l'Elysée depuis quelques heures, c'est tout sauf le RN. On anticipe peut-être un même plus qu'un barrage anti-RN, c'est un barrage Bardella, pas de Bardella à Matignon, on va essayer de faire comme ça. En tout cas c'est la stratégie de l'Elysée. Est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça irresponsable?
Non, tout. Moi, on dit tout à Bardella.
Ah, attention, on vous entend mal. Parlez bien de votre téléphone,
oui,
Sam.
Oui, oui. Ouais. Ben, je disais non. Alors, Bardella, c'est juste parce que c'est lui la tête d'affiche. Hein. C'est pas tout contre Bardella, c'est tout contre le RN. Mm. Et non, c'est irresponsable. Au contraire. Et d'ailleurs, je vais dire, et aux électeurs, même aux personnes indécises qui nous écoutent, le RN, c'est un parti qui prône une certaine, un certain respect des droits, hein, de l'ordre et de tout cela. Bon, ça reste le seul parti en France qui, aujourd'hui, est jugé extrême par le Conseil d'État.
C'est-à-dire,
les règlements françaises, les juges français, les décideurs, regardez, et je n'ai pas LFI dans mon cœur personnellement, néanmoins, ils disent l'extrême gauche, non, il n'y a qu'un seul extrême en France, et c'est l'extrême droite. Donc quand un parti
dans la coalition Nouveau Front Populaire, il y a quand même le NPA aussi.
Le NPA est quand même considéré extrême gauche, pas LFI par le Conseil d'État, mais le NPA si.
Ok.
Et c'est quoi cette histoire?
Attends, Daniel, on laisse parler Sam.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On laisse
le Conseil d'État qui dit qui est qui, mais dans quel pays on est, ça aussi?
Sam,
mais ça aussi, c'est grotesque.
Alors Daniel, tu n'entends pas bien. Là, je donne la parole à Sam. Excuse-moi.
Non, mais c'est voilà, pour moi le propos il est là. Le propos, il est qu'il y a des baromètres, il y a des règles, il y a des curseurs qui permettent de déterminer si un parti est un parti qui est extrême ou pas. Ce que prône l'extrême droite, ce que prône le Rassemblement National, le Front National depuis sa fondation, de toute son histoire. Je sais bien que les médias, vous avez dédramatisé ça depuis des années.
Oui,
et maintenant,
bah,
c'est
sympa
de les avoir à l'antenne. Néanmoins, ça reste un parti qui prône ce qu'il prône. Et d'ailleurs, on voit quand on entend ce que disent leurs nouveaux candidats.
Ouais. Hein, on discute tranquillement. On discute tranquillement, Sam, mais ce qui est bien, c'est aussi que quand on entend des responsables du RN, ils nous accusent de les avoir diabolisés pendant des
années. Excuse-moi, Sam, mais il faut quand même noter quelque chose. La France n'est pas le seul pays en Europe où les idées du Rassemblement National sont en augmentation. J'entendais, déjà, ça, premier point, il faut le noter, avant de pleurer sur cette augmentation. Il y avait un député Renaissance sur BFM qui, la semaine dernière, arrive, se pose et dit... De toute façon, il faut dire que le constat sur des problèmes qui préoccupent des Français posés par le RN sont réels. Mmh. Ok ? Et donc ? Ça fait depuis 2002 cette histoire-là, même avant, hein, mais 2002, comme il y a eu le deuxième tour, c'est une date un petit peu symbolique. Et donc, quelles ont été les réponses derrière ? Ça a été Sarkozy qui, comme seule réponse, lui qui a réussi à faire redescendre le RN à 8%, la seule réponse à la sécurité, à ces problèmes-là, c'est le Karcher et casse-toi pauvre con. Ça a été ça les réponses. Les réponses d'Hollande ensuite, les réponses de tous les gouvernements.
On n'en serait pas.
Et ce n'est pas. Les réponses aux préoccupations des Français, on ne fait que diaboliser.
On est d'accord.
On ne fait que diaboliser et dire anti-RN, anti-RN.
Et s'il y avait eu.
Mais ce n'est pas une politique, ça.
Daniel, on est d'accord.
C'est pas un programme, ça.
Daniel, on est d'accord. Et heureusement que tu es fatigué, sinon c'est moi qui le serais. On est d'accord. Et ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais on n'en serait pas dans cette situation actuelle de crise, quand même politique, s'il y avait eu des réponses d'apporter.
Évidemment.
D'accord. Sam, merci d'avoir été avec nous au 32-16. Arnaud Benedetti nous rejoint. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ?» point d'interrogation, paru aux éditions Michel Lafon. Arnaud Benedetti, ce n'est pas une vue de l'esprit, je ne pense pas avoir rêvé. Il y a 10 jours, le chef de l'État prônait le « ni LFI, ni RN » pour le premier tour. Désormais, c'est pas de RN tout court. À quoi joue Emmanuel Macron ?
Bah écoutez, il essaye tout simplement d'éviter, et on voit quelle est la stratégie derrière, l'accès de Jordan Bardella à Matignon. Alors la difficulté de sa stratégie, elle est double d'abord. Ce sont bien évidemment les contradictions que vous venez de pointer, parce que, si vous voulez, on ne peut pas dédiaboliser... on ne peut pas dédiaboliser un adversaire un jour... Enfin,
diaboliser LFI, LFI la semaine dernière et aujourd'hui.
Et le rediaboliser aujourd'hui. Ouais. Donc il y a un problème de cohérence qui se pose manifestement et qui peut en effet parfois poser des problèmes aux électrices et aux électeurs. Ça c'est le premier point. Mais en fait, quel est l'objectif ? L'objectif c'est surtout pas tant de contenir la poussée du Rassemblement National, quoi que c'est ça l'objectif. C'est surtout peut-être d'empêcher la possibilité de former un gouvernement.
Donc d'empêcher le RN d'avoir la majorité absolue.
Bah exactement, parce que le vrai sujet, c'est que aujourd'hui l'objectif, il est d'une certaine manière assez peu ambitieux du côté du président de la République au regard de l'épreuve électorale à laquelle il est confronté. Il sait très bien que de toute façon, il y aura à nouveau une poussée du Rassemblement National en nombre de députés au second tour. Toute la question est en effet de le cantonner à une majorité relative. Et on sait depuis plusieurs semaines maintenant que le Rassemblement National a annoncé que dans le cadre d'une majorité relative, il pourrait très bien ne pas vouloir accéder à Matignon. Après, la question est de savoir quel est l'étage de cette majorité relative.
Arnaud, ils en reviennent un petit peu. Hein, encore hier, Sébastien Chenu a dit même si on a une majorité relative, on pourra essayer de trouver peut-être des alliances. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dit oui. Bon,
c'est l'étiage de cette majorité relative. Si vous êtes à 250, c'est pas la même chose.
Évidemment que
190. Vous êtes à 270 ou 275, où vous allez peut-être aller rechercher des alliés potentiels, notamment chez les LR qui ont décidé de ne pas suivre Monsieur Ciotti. Donc ça, c'est une possibilité. Le problème, c'est que le risque d'Emmanuel Macron, c'est in fine de se trouver avec un pays ingouvernable.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, Arnaud Benedetti. Si le RN n'a pas suffisamment d'élus et n'accepte pas de former un gouvernement, il se passe quoi ?
Ah ben vous savez, c'est extrêmement difficile. Il peut très bien ne pas y avoir de majorité du tout à l'issue du soir du second tour, ce qui serait une situation totalement, en effet, exceptionnelle sous la Ve République, puisque la Ve République a été bâtie pour produire justement des majorités qui permettent de gouverner dans la durée et dans la stabilité. Là, en l'occurrence, on se trouverait dans une situation institutionnelle qui n'a pas été, de fait, prévue par les institutions de la Ve République. Alors, on parle de gouvernement technique. Mais un gouvernement technique, si vous voulez, un gouvernement technique, de toute façon, il sera quand même soumis à un moment donné à l'approbation du Parlement, ne serait-ce que pour faire voter le projet de loi de finances. Quand vous n'avez pas de majorité, c'est extrêmement difficile, que vous le vouliez ou non, de faire passer un projet de loi de finances. Donc on voit qu'aujourd'hui, la stratégie d'Emmanuel Macron est une stratégie très risquée. Elle est doublement risquée. D'abord, l'alliance avec LFI peut, en effet, l'alliance qui n'est pas une alliance, les désistements en tout cas avec LFI, peuvent d'une certaine manière troubler une partie d'abord de l'électorat, notamment macroniste qui n'a pas du tout envie d'aller forcément faire barrage au Rassemblement National en votant pour un candidat de LFI, en tout cas un candidat de LFI, voire un candidat du Front Populaire, ça c'est une chose. On peut avoir une déperdition importante de voix au deuxième tour. Et puis l'autre problème, c'est que quand finalement vous faites de l'ingouvernabilité l'obstacle à l'accession du Rassemblement National au pouvoir, ben vous prenez le risque tout simplement de se faire dysfonctionner les institutions d'un
certain. Une dernière question, Arnaud Medesi, on est pris par le temps, mais une dernière question. Je ne sais pas si c'était, certains ont émis l'hypothèse, je ne sais pas si c'était le but d'Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Certains ont dit c'est le chaos, c'est la théorie du chaos. Mais je ne sais pas si c'était son idée à l'origine, mais est-ce qu'on peut y arriver ?
Bon, on n'en est plus très loin. On n'en est plus très loin, en l'occurrence, vu l'état de tension du débat politique et vu l'issue très incertaine des urnes. Il est évident que si encore une fois, au soir du 7 juillet, on n'est pas capable de disposer d'une majorité, ou en tout cas dans la semaine du 7 juillet, il aura rajouté la crise institutionnelle à la crise politique. Et il en sera, bien évidemment, le principal responsable. Donc, on est vraiment dans une situation qui est, encore une fois, tout à fait unique sous la Ve République. Après, reste à savoir s'il peut y avoir une majorité relative. Ça sera, là aussi, quelque part, le résultat de dimanche qui nous le dira.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire » aux éditions Michel Lafon. On vous a posé la question, tout sauf Jordan Bardella à Matignon, Emmanuel Macron est-il irresponsable, Paul ?
Eh bien, c'est un oui massif. 84% de nos auditeurs jugent le président responsable.
Bon, allez, dans un instant, la suite des Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Candidat sous curatelle, dérapage en série. Faut-il s'attendre au pire à l'Assemblée nationale ? Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
La suite d'Estelle midi, 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Tout de suite, on parle des dérapages du jour. Dérapages de candidats aux législatives, Paul. Certains profils, certaines déclarations font beaucoup parler.
Oui, la question d'une surbordélisation de la nouvelle Assemblée nationale se pose à 5 jours du second tour. Alors, c'est principalement du côté des deux extrêmes qu'on a ce genre de dérapage. On va commencer par le RN. Plusieurs polémiques ont éclaté ces derniers jours. On apprenait hier qu'un candidat sous curatelle avait passé le premier tour, Thierry Mosca, dans la deuxième circonscription du Jura. Problème, un candidat sous curatelle est de fait inéligible.
Parce qu'on peut le dire, enfin, il a été reconnu par la justice comme déficient mental.
Exactement. Hier, sur les réseaux sociaux, Paul Vert de Sauras, candidate en Mayenne, qualifié pour le second tour, se défendait face caméra de toute forme de racisme et d'antisémitisme, affirmant avoir un dentiste musulman et un ophtalmo juif. Enfin, ce matin, Ludivine Daoudi, candidate du Rassemblement National dans la première circonscription du Calvados, s'est retirée, malgré elle aussi sa qualification pour le second tour, après la diffusion d'un cliché d'elle avec une casquette nazie. Mais c'est la même chose du côté de la France Insoumise, qualifiée pour le second tour dans la première circonscription du Vaucluse, Raphaël Arnaud, candidat investi par le parti de Jean-Luc Mélenchon, est fiché S pour violence en réunion et apologie du terrorisme, juste avant le premier tour. Sébastien Delogu, déjà vainqueur, directement vainqueur au premier tour dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, avait publié une vidéo antisémite mettant en scène notamment le député Meyer Habib. Enfin, dans le Val-de-Marne, dernier exemple qu'on a décidé de retenir ce matin, le candidat Louis Boyard est accusé d'avoir perturbé la quiétude d'un bureau de vote, déclamant des propos antiracistes avec plusieurs de ses camarades, lui se défendant de protester contre des propos racistes tenus par certains assesseurs.
Candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire pour la future Assemblée nationale ? Vous nous appelez au 32-16. Daniel, parfois, lors de la dernière mandature, on a assisté à des scènes qui nous disaient vraiment, là, on a touché le fond. Mais peut-être pas.
Oui, exactement. Je pense qu'on est capable de creuser encore un petit peu. Et là, ce qui s'annonce, oui, c'est le train fantôme, quoi. Et encore le train fantôme, des fois, on rigole dedans. Là, c'est terrible, oui. Il y a les personnages que vient de présenter Paul à l'instant. Mais encore une fois, hein, on est à 4 jours du vote. Enfin, allez lire les programmes et réfléchissez bien avec qui vous allez vous associer, quoi. Moi, les gens qui disent, ah, mais non, mais c'est pas antisémite parce qu'il y a qu'à il y a qu'à les dénoncer et puis on verra s'ils sont condamnés par la loi. Moi, je suis désolé quand je vois ça. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, quoi. Voilà, à un moment, il faut juste se regarder dans une glace. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir avec qui on va envoyer à l'Assemblée, à côté de qui on va s'asseoir. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'à un moment là, je sais pas jusqu'où on est capable de creuser. Mais là, on va mettre des gens à l'Assemblée.
Enfin, il y aura pas que ça.
Je sais pas. Pardon d'avoir une idée de ce que devait être ce pays. Je sais pas. Moi, je suis totalement désorienté, déboussolé, très très peiné. Par ce qui est en train de se passer et par ce qui peut sortir dimanche soir des urnes. On est là à se battre. Mais non, lui, il n'est pas extrême. Il n'a pas été signalé comme tel par le Conseil d'État. Ah, mais lui, il est extrême. Et puis l'autre, c'est un Goliot. Et puis l'autre, c'est un antisémite. Enfin, moi, ça me donne l'impression quand même d'une tripotée de débiles dans les deux camps, là, des deux côtés. Et on y va, là. Et allègrement, on y va, là. Et des anciens présidents comment dire, vont aller se jeter dans les bras de ces gens-là. Moi, je suis, mais...
Il y a quand même, je rejoins ce que dit Daniel.
Étourdi parce que je vois.
Pierre Rondeau. Dans le fond, je rejoins ce que dit Daniel. C'est vrai qu'on pourrait avoir dimanche, dès lundi, une assemblée avec une tripotée, je te cite, de débiles. À majorité, je ne pense pas. Mais malgré tout, ça reste le jeu de la démocratie et j'aurais tendance plutôt à condamner ou en tout cas à critiquer des gens qui vont aller aveuglément voter pour tel ou tel parti.
C'est pour ça que j'ai dit, allez lire les programmes. Exactement, quand même et renseignez-vous. Vous, vite, vous avez encore 4 jours
quand
pour le faire.
Quand on voit des gens qui vont dire, je ne suis pas raciste parce que mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman, je suis désolé, au bout d'un moment, n'allez pas voter bêtement pour
dis également l'autre côté, la démocratie, je m'en fous, parce que je rentre dans un commissariat, je suis prêt à tout casser. Il faut signaler les deux camps, Pierre. Parce que c'est ça qui est très grave. Paul l'a fait, mais toi, tu le fais pas.
Laisse-moi finir.
Attends.
Oui, tu as raison.
Si tu le dis pas, il le fait pas.
Aux personnes qui vont aller voter, n'allez pas voter bêtement, entre guillemets, pour un camp, un parti politique, mais allez voir directement les personnes. Je rappelle que c'est pas une élection législative.
Et les programmes,
c'est
les programmes.
30 élections locales.
Voilà. Exactement.
Du local,
et des candidats.
Directement voter dans sa circonscription.
Et des candidats locaux.
Avec ses candidats de sa circonscription, avec des candidats locaux. Il y a un programme commun, c'est vrai, mais concrètement, ce sont des gens qui vont représenter la circonscription. Allez voir directement qui va vous représenter pendant 5 ans.
D'où ils viennent. Enfin, c'est quand même tout l'intérêt de ces élections-là qui sont des élections locales. Et effectivement, au-delà des programmes, Daniel, tu parles des programmes, tu as raison, sauf qu'on sait très bien aussi que ces programmes, ils ont été faits en 20 jours. Ouais. Et bon, franchement, il y a quand même des questions à se poser là-dessus, mais au-delà des programmes, juste la personne pour laquelle on va voter. OK, il y a des alliances, mais je veux dire, moi, je sais quelles sont les candidates dans ma circonscription et je vote en fonction de ça. Ça me paraît un peu logique. Maintenant, sur ta question de est-ce que l'Assemblée nationale sera honteuse, enfin, en tout cas, sincèrement, et je te rejoins, Daniel, les bras m'en tombent. Enfin, franchement, on est atterré. Et oui, effectivement, sur la question d'un fichier S qui arrive à être candidat, ça me paraît complètement délirant.
Cette dame qui dit j'ai un
ophtalmon qui est juif. Enfin, pardon, mais ça me rappelle le sketch de Muriel Robin, 1980. Je l'ai noté.
Une personne qui met une casquette nazie, 1988.
Muriel Robin, quasiment mon âge, qui faisait le sketch le noir parce que sa fille, noir ou noir un peu blanc. Enfin, pardon, c'était en 1988. Sincèrement, je suis. J'essaie de pas être triste, je suis juste atterré, ça donne envie de sourire, sauf qu'en fait c'est pas drôle quoi. C'est pas drôle.
Candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire pour la future Assemblée nationale? Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Rémi, bonjour à tout le monde.
Merci.
Bonjour. Je suis contente que la dame qui travaille avec Estelle là est chroniqueuse et c'est très bien.
Amélie Rosic.
Je vous remercie.
Absolument. Oui.
Merci madame.
Elle est bien la dame.
Elle est très très bien.
Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup.
Et c'est bien de le dire.
On est
en Charente-Maritime, Laurent, c'est ça?
Oui, oui.
Bon, est-ce que vous craignez le pire pour la future Assemblée?
Ah bah, que ce soit on n'a pas le droit de dire les noms, mais que ce soit...
À gauche ou à droite? Très à gauche ou très à droite?
Que ce soit la droite ou la gauche, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, et il faut pas oublier, et les gens n'en parlent pas beaucoup, ça va être le bordel dans la rue. Moi, j'ai croisé tout à l'heure un magasin, des jeunes qui sont majeurs, et ils parlaient entre eux, ils disaient de toute façon, que ça soit... Surtout la droite, l'extrême droite, ça va être le bordel, on va sortir nos armes. Ça va très très loin. Moi je m'attends au pire.
Donc ça c'est un comportement, Laurent, qui n'est même pas démocrate. Ça veut dire qu'on est prêt, il y a des gens qui sont prêts à ne pas respecter le résultat du vote.
Attention, c'est deux jeunes entendus dans un magasin. Mais Laurent, on entend, voilà, il y a ça de crainte, oui. Bon. Laurent.
Oui, oui.
Mais Laurent, moi ce qui m'interroge aussi... Laurent, ce qui m'interroge aussi, c'est que encore une fois, on revient à la source, j'allais dire, le 9 juin au soir, lorsque Emmanuel Macron prend la parole, l'une des justifications pour dissoudre l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, c'est le bazar à l'Assemblée nationale.
Mais c'est vrai.
Il le dit. Il dit bon, ouais, aujourd'hui, il y a
une assemblée.
Voilà, il y a une Assemblée nationale où ça se passe mal, où c'est un peu le. Il a pas prononcé le mot, mais il y a un peu le bordel, voilà, pour parler un peu vulgairement. Mais c'est ce qu'il entendait. Et donc, on va essayer de remettre un peu d'ordre.
Bah, il a des conseillers très intelligents qui sont surdiplômés.
Là, Laurent, on a l'impression que c'est tout l'inverse qui risque d'arriver, non?
Bah oui, parce que moi dimanche, c'est la première fois que j'ai entendu mon père pleurer au téléphone.
Ah bah, racontez-nous, il a quel âge votre papa ?
Mon papa, il est de 43.
D'accord, ok.
Depuis tout petit, mes sœurs et moi, depuis tout petit, on pliait les tracts en 1981.
Donc il était engagé politiquement ?
Il était engagé politiquement, oui. Avec le poing et la rose. Voilà.
Non, il y avait socialiste, on peut le dire ça.
Il a juste mis deux ans à être
Daniel,
par Mitterrand.
Attends, Daniel. Et votre papa, il a pleuré dimanche. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Oui. Bah, il m'a dit j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Parce que moi, je pense à moi. Quand j'ai voté dimanche, j'ai pensé à mes grands-parents, à tous ces gens qui sont même morts pour qu'on ait le droit. Je suis désolé, mais voilà. Moi, ça me fait très peur. J'ai 52 ans, ça me fait très peur.
Qu'est-ce qui vous fait peur ?
S'ils arrivent, ça va tout. Voilà, perdre tous nos droits qu'on a, que les gens se sont battus pour.
Oh là là. Attends, s'il te plaît, Daniel. Allez-y, non.
Tous les droits. Ils vont tout nous enlever, de toute façon. S'ils vont arriver, ils sont en train de montrer leur vrai visage maintenant. Ils se prennent déjà au gouvernement. Et là, ils sont en train de se battre, qui va être Premier ministre, que j'en ai à foutre, moi qui vais être Premier ministre, excusez-moi de parler comme ça, mais moi, ça me fait très très peur, j'ai des enfants, ça me fait peur.
Laurent, au-delà de l'étiquette politique, de la couleur politique, que ce soit très à droite ou très à gauche, peu importe, est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu notre politique ?
Ah oui, on a complètement perdu, on a tout perdu. Ils mettent des gens là qui connaissent rien à la politique, je parle de... que ce soit de la droite ou de la gauche, même d'autres qui connaissent rien à la politique, qui montent des drapeaux. Alors, il n'y a que le drapeau français qui doit être dans l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ces gens. Ils n'ont vraiment pas honte.
Ça, c'est vrai.
Ils n'ont pas honte. Ils nous donnent des leçons. C'est fini. Le pire va arriver dimanche. Et moi, ça me fait très peur. Je suis désolé d'être comme ça, mais ça me fait très, très peur.
Mais vous n'avez pas été désolé d'être comme ça,
Laurent. Qui va aller faire un tour pendant une journée à Oradour-sur-Glane, ils vont comprendre ce que c'est.
Laurent, vous n'avez pas avoir honte d'être comme ça, enfin, vraiment pas, parce que moi, je pense, et ça, c'est mon avis personnel, il y a une très forte participation dimanche dernier aux élections. Mais je pense qu'il y a une majorité silencieuse en France qui vote d'un côté ou d'autre, peu importe, mais qui se désespère du spectacle auquel on assiste à l'heure actuelle, Laurent. Comme votre papa le fait ?
Oui, mais je vous le dis, moi-même, ma sainte, ça a toujours été la gauche. La Rochelle, où je suis né, c'est à gauche. Ils sont tous passés à l'extrême. Tous.
Et Laurent, s'il te plaît, Daniel, attends un instant. Et Laurent, parce que je veux continuer juste un instant le dialogue avec Laurent. Vous savez, moi, j'ai mon père qui est de 37, Laurent, qui est gaulliste, qui a toujours été gaulliste, et qui est dans le même état que votre papa. Hein.
Oui, moi, je pense que, voilà, les gens qui sont battus pour nous, qui ne sont plus là pour parler, doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent avoir honte d'avoir aidé ce pays, ce magnifique pays, que les deux sont en train de nous détruire. Et qui c'est qui nous a mis là-dedans ? C'est Macron. Voilà, il est très fier de lui, il peut se balader avec sa casquette et son blouson. Moi, c'est fini, j'ai cru en lui en 2017, j'ai cru en lui en 2022, c'est terminé.
Merci Laurent d'avoir été avec nous, c'était très important de vous entendre. Merci à Laurent. Vous, Laurent, qui nous appelait depuis la Charente-Maritime. Il y a le désespoir, hein. Amélie,
on l'entend. Ouais, et la responsabilité, en fait, j'ai presque envie de dire de tous les dirigeants politiques depuis 2002. J'ai la sensation qu'en 20 jours, on assiste à ce à quoi on a assisté en 22 ans, c'est-à-dire depuis 2002. Ils savent que le meilleur moyen d'être élu au second tour, et je parle de la présidentielle évidemment, là on est dans le cadre des législatives, c'est de faire monter artificiellement ou pas, mais en tout cas de faire en sorte que le FN, nouvellement RN aujourd'hui, puisse accéder à un deuxième tour parce que comme ça on est sûr de gagner, et ben en fait ils ont été pris à leur propre jeu, voilà, et aujourd'hui c'est terminé.
Une politique minable plutôt que de défendre des programmes.
Voilà,
des
ça fait 22 ans et la stratégie, et bah,
plutôt
voilà.
Que de regarder en face les vraies préoccupations des Français et de renvoyer pendant 20 ans tous les gens qui se posaient des vraies questions sur l'état de notre société. Vous êtes des fachos, vous êtes des fachos, vous êtes que des fachos, vous êtes que des fachos, sans arrêt entendre ça, bah à l'arrivée, bah voilà.
On vous a posé la question, candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire à l'Assemblée nationale? Daniel, Pierre, vous continuerez le dialogue après, vous me laissez faire ce que j'ai à faire. Candidat au sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire à l'Assemblée nationale?
Eh bien, nos auditeurs sont inquiets pour 84% d'entre eux, ils répondent oui.
Bah, Laurent se sentira moins seul, en tout cas. Allez, dans un instant, avant ça, on joue.
Oui, tu as reconnu cette alerte, Rémi, c'est le moment pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC. C'est aller à Hambourg vendredi pour assister au quart de finale France-Portugal. Pour ça, une seule solution, vous envoyez tout de suite euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Désengorger les urgences de nos hôpitaux, grâce à l'intelligence artificielle. Bah, c'est tout de suite. Bon, Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours, midi 14h aujourd'hui sur RMC et RMC Story. Et Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut Rémi, salut à tous.
C'est un sujet épineux, grave, parce qu'on le sait, nos urgences sont au bord de l'asphyxie en France, saturées. Et il y a peut-être un moyen de les désengorger, en tout cas d'aider à désengorger ces urgences grâce à la technologie.
Grâce à la technologie, exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des outils qui existent déjà, qui commencent à être déployés dans certains hôpitaux. Il ne s'agit évidemment pas de dire que la solution, elle est toute technologique. Hein. On a besoin d'effectifs.
Tu vas être accueilli par un robot qui va dire non, ça c'est grave, ça c'est pas grave.
Clairement. Tu vas voir qu'on y est presque quand même. Mais en tout cas, il y aura toujours de l'humain, évidemment. Cela dit, pour fluidifier le trafic, pour aider les soignants, leur faire gagner du temps, on a des outils extraordinaires qui sont en train d'arriver. Je t'en présente trois qui sont français en plus. Le premier s'appelle Calypse. Il est utilisé notamment à l'hôpital de Valenciennes. Et c'est un outil qui permet d'anticiper et même de deviner, j'allais dire quasiment au patient près, combien de patients vont arriver dans la journée et même dans l'heure qui vient à l'hôpital.
C'est des stats ?
Alors c'est des stats, c'est plus que des stats, on va utiliser de l'intelligence artificielle, donc c'est de l'analyse statistique, ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. En gros, on va prendre toutes les données des années passées sur l'hôpital, tu vois, donc on dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle heure, etc. On va coupler ça avec des données contextuelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? S'il y a du verglas,
la météo, c'est ce que j'allais dire, ouais, météo, c'est ça, je pense au verglas.
La météo, tu prends ça en compte, mais ça peut être aussi des manifestations. S'il y a un gros match de foot, s'il y a une manif, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, plein de paramètres. Et à partir de ça, on va te faire une projection. Alors, quand je disais au patient près, j'exagère un peu, évidemment, c'est pas de la magie, mais avec un taux de précision à 90%, on arrive à te dire combien de personnes vont arriver. Et quel type de problème ils risquent d'avoir? Encore une fois, c'est des prédictions, c'est des statistiques. Et donc, ça permet d'optimiser les effectifs, de mettre les bons effectifs au bon endroit, au bon moment. Les lits aussi, on va pouvoir déterminer à quel moment ils vont rentrer, à quel moment les patients vont sortir. Et donc, tout ça, ça permet un gain de temps, de place et une optimisation des ressources, tout simplement.
Bon, ça, c'est pour l'accueil des patients. Ouais. Mais une fois qu'ils sont là, le problème, c'est qu'on manque de bras aussi pour les prendre en charge. Ils sont aux urgences.
Alors, ça, c'est vrai. Et alors, surtout, la nuit, le soir. En plus, les médecins sont débordés. C'est compliqué. Là aussi, il y a des outils extraordinaires qui sont en train d'arriver. Je t'en donne un. Il s'appelle Bone View. Donc, c'est la vision des os, hein, littéralement. C'est un outil français aussi pour l'analyse des fractures. Fractures, c'est un des trucs les plus courants quand tu arrives aux urgences. Et c'est l'un des éléments d'ailleurs où il y a le plus d'erreurs de diagnostic. Parce que tu arrives, en gros, tu t'es fait mal, t'es tombé, on te fait une radio. Et le médecin, c'est pas forcément le médecin qui a été formé pour ça qui va avoir le temps d'analyser la radio. Et donc là, en gros, c'est une intelligence artificielle qui va analyser la radio, qui va mettre moins de temps qu'un médecin humain pour le faire et qui va faire moins d'erreurs sur les tests qui ont été réalisés. Elle réduit le taux de fracture non détectée de 29%. Or, les erreurs d'interprétation sont très fréquentes avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce que si on ne te diagnostique pas la fracture derrière, t'imagines les complications. Donc là aussi, il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer les médecins. Évidemment pas. Mais ça leur permet de gagner du temps, d'avoir une sorte de deuxième avis s'ils ne sont pas trop sûrs. Et puis, ça permet aussi de gagner du temps aux patients. Parce que si l'IA te dit, en fait, il n'y a rien, vous pouvez rentrer à la maison, monsieur. Bah, là aussi, en fait, tu repars et tu n'as pas besoin d'attendre pendant des heures, quoi.
Et puis, un autre enjeu, ce sont les appels d'urgence, et là aussi l'IA pourrait aider.
Oui, parce que les appels d'urgence, quand tu y réfléchis bien, ils n'ont pas tellement évolué, y compris ces dernières décennies. Tu appelles avec ton téléphone, t'es pris en charge par un opérateur, tu lui dis ton problème, et puis bah il y a des gens qui viennent s'il y a un souci. En fait, aujourd'hui, on a tous dans la télé, dans la poche des téléphones augmentés, des smartphones en fait, avec une caméra, avec un appareil photo. Et donc là, en gros, avec cette application qui s'appelle iWind, eh bien quand tu appelles les urgences, l'appareil photo et la caméra du téléphone va s'enclencher et va analyser tout ce qui se passe autour de toi. Donc en fait, ça va faire une sorte de prédiagnostic. Elle va voir déjà avec la caméra frontale si toi t'es ensanglanté, si t'es blessé, si t'as l'air stressé, si t'es pas bien. Autour de toi, s'il y a un accident de voiture, un accident de vélo, est-ce qu'il y a des victimes, est-ce qu'il y a des gens. Et tous ces éléments-là vont être envoyés en fait aux secouristes avant même, aux urgentistes, avant qu'ils n'arrivent sur la scène. Et donc du coup, bah ils ont en fait tous les éléments pour, bah si tu veux, pour optimiser leur intervention quand ils arrivent. En gros, il y a une partie du boulot qui est quasiment déjà faite, quoi. Si tu veux, c'est un gain de temps dans ce qu'on appelle l'heure d'or. L'heure d'or, c'est la fameuse heure qui suit l'heure où tu as un problème, un accident, qui est celle où en fait tes chances de survie sont les plus menacées. C'est là qu'il faut intervenir en urgence, chaque seconde compte. Et donc là, ça va permettre, bah là encore, de gagner quelques précieuses secondes ou minutes. Et donc bah c'est pas négligeable pour les patients.
Chaque seconde compte, tu viens de le dire. Regarde là-bas, c'est écrit, c'est fini.
Ouais, t'as la seconde près aussi, t'as vu. Hein,
t'as vu, formidable.
Franchement.
Mais on se retrouve demain. Demain, tu parleras de quoi?
Demain, je parlerai de quoi? C'est une bonne question, je sais plus maintenant.
C'est pas grave.
Non, c'est quoi la surprise?
C'est pas grave, parce que je sais que ça sera de qualité quand même.
Ah, oh, mais c'est gentil.
On n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel, que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application RMC, et bien sûr sur toutes nos plateformes d'écoute. Dans un instant, tiens, tu prends le train?
Souvent, oui.
Bon, t'es jamais en retard?
Bon. C'est une blague?
C'est pas très cher.
Oui, non, bah, c'est presque gratuit.
Oui, et puis il n'y a jamais de grève.
Et il n'y a jamais de grève.
Bon, prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle, pardon, j'y ai arrivé, détester le train? C'est notre question. Vous nous appelez au 3216, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi comme tous les jours de midi à 14h exceptionnellement actuellement puisqu'il y a le Tour de France qui sera avec nous, intégral tour à partir de 14h. Donc nous sommes sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Paul Lassen, journaliste RMC, est toujours là. Daniel Riolo, journaliste RMC également. Pierre Rondeau, économiste du sport. Et Amélie Rosic, journaliste RMC. À 13h, dans un instant donc, on va parler de la SNCF. Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. Et puis on continue de jouer, Paul.
Et vous envoie en Allemagne pour assister au quart de finale de l'équipe de France face au Portugal. C'est vendredi et on vous propose de vivre l'expérience RMC, l'aller-retour à Hambourg avec la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC qui sont sur place avant le match et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Alors pour ça, une seule solution, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer en vous inscrivant. Pour ça, vous envoyez euro au 7-32-16, euro au 7-32-16, et on vous fait réécouter l'alerte. Mais
voilà, vas-y Amélie, tu le fais très bien.
Coucou.
Magnifique.
Bah, bonne chance à tous, hein.
Alors c'est pas ça, hein.
C'est pas Estelle Midi.
Mais ça sert vraiment à rien d'avoir des figures.
Bah oui.
Les réservations du jour. Selon le patron de TGV Intercité, 2/3 des places disponibles pour cet été sont encore à vendre. Paul, comment l'expliquer?
Alors déjà, c'est une annonce surprenante, Rémi. Les vacances commencent dans quelques jours. Alors pour la SNCF, ces chiffres se justifient, je les cite. Nous avons eu beaucoup de ventes anticipées pour les Jeux à l'ouverture des réservations, confirme le responsable, qui constate un fléchissement ces derniers jours. La raison, pour lui, une angoisse de venir à Paris et même en France à cause des Jeux Olympiques. Les JO,
c'était pas ce qui était prévu au départ.
Non, c'est pas ce qui était prévu au départ. Les JO d'un côté, mais pas seulement, le prix aussi, même si la SNCF évidemment ne met pas en avant cet argument. Rappelons que les prix moyens des TGV ont augmenté de 2,6% cette année après une hausse de 5% en 2023. Un chiffre qui monte à 7% d'après les chiffres indépendant du régulateur des transports. Alors, preuve que cette hausse a du poids sur le manque de réservations, la SNCF a mis en vente il y a quelques jours 500 000 billets TGV Inouï à partir de 29 euros. C'était une opération flash, comme ils l'appellent. Autre frein possible, mis en avant par les spécialistes du tourisme, l'attentisme qui est dû à la météo pourri, hein, on peut le dire, qu'on a eu depuis plusieurs mois. L'incertitude également autour du contexte politique ou encore la conséquence de la hausse des tarifs des logements touristiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat. Des arguments qui ne mettent pas directement en cause la politique de la SNCF qui, justement, ne se dit pas inquiète en se basant sur les chiffres de l'an dernier. La compagnie ferroviaire avait vendu 24 millions de billets grande ligne avec des TGV remplis à 80%, un record historique.
On n'est pas là pour faire du SNCF bashing. Sincèrement, moi je prends le train tous les jours, ça fonctionne plutôt bien sur la ligne que j'emprunte. Pour le coup, c'est TGV sur la ligne Nord, c'est la ligne la plus utilisée de France, donc elle est préservée, ça je le sais. Par contre, j'ai des camarades, moi je sais qu'ils prennent le TER régulièrement, les intercités, d'autres lignes où c'est la galère. Moi je rêverais sincèrement, mais ce sont des choix politiques, il y a de l'investissement, beaucoup de moyens à mettre. Je rêverais d'avoir des trains qui soient parfaitement à l'heure. Il y a des pays où ça existe, hein, où il y a moins de grèves, où les cheminots soient moins de grève parce que les cheminots soient correctement traités, bien payés, en tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'ils aient des conditions de travail peut-être meilleures qu'ils ne l'ont actuellement. Bref, on n'est pas là pour taper sur le train. Le train, moi, j'en rêve qu'il y ait des trains partout qui fonctionnent tout le temps et très bien et pas cher. Maintenant, Amélie, on vous pose la question au 32-16, prix, retard, grève, est-ce qu'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, la SNCF, nous fait détester le train?
Alors, je vais commencer par un petit coup de gueule personnel. Je suis désolée, mais je vais commencer par ça.
Mon
papa habite à Aix-les-Bains. Je l'embrasse. Je fais le trajet Paris-Aix-les-Bains depuis plus de 15 ans. Avant le Covid, je payais en moyenne entre 120 et 130 euros un aller-retour. D'accord ? Depuis le Covid, depuis 2021, je n'ai jamais réussi à toucher un billet en dessous de 185 euros. Donc, je pose la question, si jamais il y a des gens à la SNCF qui m'écoutent, est-ce que vous pouvez nous appeler privé, pour nous le dire ?
Voilà,
non, mais il faut se rendre compte, 185 euros. Donc, quand je pars avec mon fils, ça me coûte 230 euros pour aller voir mon papa
qui
à Aix-les-Bains. Voilà, et mon fils, il a 2 ans. À Aix-les-Bains. Donc, c'est quand même, ça m'intéresse. Donc, ça, c'est quand même un délire total. Je n'arrive pas à me l'expliquer. J'ai la sensation qu'ils ont peut-être réduit le nombre de trains et donc augmenté le tarif. Mais par ailleurs, j'ai pas la sensation non plus que le service soit meilleur. Au demeurant, comme toi, sur la ligne, il y a très peu de retard, je dois le dire. C'est 10 minutes maximum et c'est assez rare.
On parle de TGV. Hein.
On parle de TGV, c'est assez rare. Mais j'ai pas la sensation que dans le même temps, les cheminots aient gagné en niveau de vie.
Donc ça,
je ne me l'explique pas. Par ailleurs, donc j'ai commencé par un coup de gueule, mais je vais aussi faire une déclaration d'amour au train, puisque on est quand même dans un pays absolument incroyable, avec un maillage ferroviaire à destination des voyageurs qui est totalement dingue. Il se trouve que je suis biculturelle et non pas binationale, je le précise, avec le Brésil, et qu'au Brésil, certes, ça fait 17 fois la France, donc ça paraît plus pratique de voyager en avion, mais ça coupe tout un tas de gens, parce qu'on est quand même relativement pauvres, de pouvoir voyager. Nous n'avons pas de train pour voyageurs, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que la corruption, j'en passe, c'est des meilleurs. On a une chance inouïe en France d'avoir le système qu'on a. Alors oui, il y a des retards.
Mais tu sais, à quoi ça
Il y a des retards.
Non,
mais à un moment donné, tu prends ton mal en patience. Parce que c'est quand même génial.
Tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu es en train de dire? Et tu as raison. Mais ça me fait penser, hein, on a un système de santé extraordinaire. On a une couverture sociale extraordinaire. On a un réseau ferroviaire extraordinaire. Sauf que oui, c'était vrai.
Oui.
Il y a 30 ans. Et on sait que notre système de santé, que notre système d'assurance, par exemple de retraite, notre système ferroviaire est en train de se casser la gueule.
Mais c'est encore très bien. C'est ça que je veux dire.
Non, mais parce que
Pierre, vous chouinez alors. Pierre.
Moi, je chouine pas.
Si vous chouinez tout à l'heure.
Parle des prix.
Attendez. Pierre.
Sur la régression, ou si je puis dire, du service à la fois des hôpitaux ou du train, il y a aussi une réduction budgétaire continue depuis une vingtaine d'années.
Il y a des choix politiques qui n'ont pas été faits.
Des choix politiques qui n'ont pas été faits. Pour revenir sur la tarification particulière dans le train à destination de Aix et qui augmente, moi j'ai la même situation pour Saint-Malo que je prends très souvent pour aller en Bretagne. En fait, la SNCF, et encore plus depuis qu'il y a cette application SNCF, applique ce qu'on appelle en économie le yield management. Le yield management, c'est une adaptation en temps réel de l'offre et de la demande et du prix.
Plus le train se remplit, plus c'est cher.
Au-delà de ça, plus le train se remplit, plus c'est cher, mais au-delà de ça, l'application sait quelles sont tes destinations préférées.
Ah, super.
L'application sait où est-ce que tu veux aller en priorité.
Ah, donc, attends, tu veux dire qu'ils tiennent compte de tes envies,
de tes
voyages, en fait, véritablement, et de tes besoins, j'allais dire.
En gros, Amélie, quand tu vas à Aix-les-Bains, demande-moi de te réserver le billet, ça coûte moins cher.
Et on échange.
Parce que moi, j'y vais jamais.
Du coup, moi, je prends tes billets pour Saint-Malo et tu prends mes billets pour Aix-les-Bains.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'application, il sait que je vais souvent à Saint-Malo ou à Rennes ou souvent en Bretagne, donc j'ai les tarifs. Mais là, récemment, je suis allé à Rennes, j'ai payé 149 euros pour aller à Rennes, 1h30 de train.
Non, mais c'est un délire.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je reçois plein de publicités pour aller genre à Laval, 22 euros Laval. Pourquoi Laval? Je suis pas du tout intéressé.
Parce qu'ils savent. Il y a combien à pied entre Laval et Saint-Malo?
Je veux aller
Oui, et combien à pied entre Laval et Saint-Malo?
Un vélo peut-être.
Ouais, vélo.
Non mais ils sont dans une logique mercantile. Ça doit être un service public.
Enfin, c'est plus un service public.
En tout cas, à fond public. Malgré tout, ils appliquent une logique mercantile propre au privé. Certains pourraient mettre en avant la privatisation. Je peux vous dire que la privatisation, le yield management, s'applique à outrance. C'est pas cher là où les gens viennent, mais là où les gens ne viennent pas ou moins, les prix explosent. On l'a vu en Angleterre.
Mais surtout s'il n'y a pas de concurrence à côté, on n'a pas moyen de.
Effectivement, cette tarification particulière est approchée à un système de privatisation, un système capitaliste libéral, en tout cas, un système qui fait que là où tu veux aller, tu vas payer cher, et là où tu ne veux pas aller...
Que tes amis veulent mettre à bas.
Enfin, à demi-capitaliste, parce qu'il n'y a pas de concurrence réelle.
Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Vous nous appelez au 3216. Daniel.
En attendant que l'économie socialiste dont rêve Pierre Rondeau se mette en place dans notre pays, il se trouve que moi je prends jamais le train. Je l'ai souvent dit ici, mais l'after en ce moment est en pleine opération. Nous allons depuis un mois dans les villes de naissance des joueurs de foot de l'équipe de France.
Donc tu découvres le train.
Je prends le train, mais comme jamais j'ai pris le train.
TGV.
Ouais, TGV. Inouï ou machin,
truc. Ouais, TGV. Ouais.
Bon bref, j'ai fait Mâcon, Rennes, Grenoble, Bordeaux deux fois. Donc c'est j'ai un bon maillage là quand même. Hein. En tout, sur tous les trajets qu'on a fait, j'ai eu 10 minutes de retard cumulé. Les contrôleurs sont tous hyper sympas.
Première ou deuxième classe?
J'ai fait, alors, deuxième.
Allez.
Deuxième.
Allez.
Mais à Grenoble, il y a un contrôleur super sympa, il m'a installé en première.
Ah ouais.
On a parlé un peu foot et
voilà.
J'ai croqué la première.
Et t'as pas honte, tout le monde.
Voilà, les passes droits. Les passes droits, Daniel.
Je l'avoue, mais je l'assume, je n'ai pas eu honte.
Alors qu'Amélie,
j'ai du mal à le sortir.
Alors qu'Amélie, elle va lâcher dans le couloir.
Avec mon petit gosse, évidemment.
C'est normal, ils ont bonne conscience, tu penses.
Non, mais la dernière.
Ils sont animés de bonne conscience du matin au soir. Ils sont super Rondeau et ses amis.
Bon, pour toi, allez, Daniel.
En fait, tout ce que j'entends sur le train, je ne l'ai pas constaté. On me dit, je sais pas, je crois que tu as dit dans la présentation, il y a des places. Les trains sont bondés. C'est à l'heure, ça fonctionne bien, c'est nickel. Moi, je n'ai vu que des choses positives. Bon, après, le seul truc, vu que c'est une opération professionnelle, c'est pas moi qui paye le billet, mais je connais quand même le tarif. Et effectivement, je ne savais pas. C'est incroyablement cher, le train. Je ne savais pas que ça coûtait ce prix-là. C'est un truc de fou. Mais tu parlais du réseau en France et tout. Je lisais un article avant-hier sur l'euro en Allemagne, donc l'euro zéro là en Allemagne en ce moment. Et l'euro a mis en lumière les grandes difficultés du réseau ferroviaire en Allemagne. Moi, je pensais que les Allemands faisaient à peu près tout mieux que nous. Et ben pas du tout, parce que retard d'investissement et du coup leur train fonctionne pas bien. Donc je pense que je sais pas comme ça, mais comme on a une grande tradition de chouinerie en France, si on chouinait un petit peu moins.
Après, il y a des disparités folles, tu as raison, je reprécise quand même entre les TGV et les lignes TER, où les gens se sont battus pour maintenir des lignes TER.
Et donc, vous venez d'entendre la description de la SNCF de fonctionnement des trains en France par Daniel Riolo. Merci, Daniel. Tout va bien. Et on va demander à Magali.
Plus fort pour le contrôleur à Grenoble qui m'a fait installer en première.
Allez, on va demander à Magali si elle partage le même sentiment. Bonjour, Magali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Montpellier, Magali.
Oui, oui, oui.
Bon, vous prenez régulièrement le train, Magali?
Alors, quand on peut, oui.
D'accord. Là, pourquoi quand on peut? Pourquoi quand on peut?
Parce que le prix, voilà, avec une famille à quatre, c'est juste pas possible. Là, j'ai regardé pour cet été monter voir ma famille en Alsace, donc Montpellier-Colmar. On en a pour pratiquement 1000 euros aller-retour à 4.
Oh, wow.
Mais bien
sûr. Si je prends ma voiture avec le péage, j'en ai pour 80 euros l'aller, 80 euros le retour. Et puis bon, comme j'ai eu la chance d'avoir une voiture avec une ligne sociale, j'aurais juste la recharge électrique de ma voiture. Et puis voilà. Donc il n'y a pas photo.
Sauf que bientôt, la voiture, il n'y en aura plus quand les amis de Pierre Rondeau seront à la tête de la
voiture. Les voitures neuves, Daniel, les voitures neuves. Tu peux encore conduire avec
Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, Magali, ce qui est sûr, c'est que si vous aviez le choix, vous préfériez prendre le train.
Ah bah oui, parce que niveau fatigue, 8 heures de route, je préfère aller faire un train. En plus, moi, j'ai un souvenir, enfant, on prenait même le train de nuit avec mes parents. Il faisait justement 7 Colmar, donc voilà. Et c'était des super souvenirs.
Je peux vous demander votre âge, Magali?
40 ans.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça se détériore, c'est de plus en plus cher et ça marche de moins en moins bien?
Oui. Bah, oui. Oui.
Mmh. Ouais. Ouais, il n'y a pas photo. Bah, merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous. Magali qui nous appelait depuis Montpellier au 32-16. On a Yvan qui est avec nous, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Yvan.
Bonjour ouais. Yvan, merci d'être avec nous. On est par chez moi, on est à Lille dans le Nord.
Oui, tout à
fait. Vous faites quoi dans la vie Yvan ?
Je travaille pour TGV en fait, j'ai une gestion de TGV. Avant j'étais à Bordeaux et ça fait 4 mois que je suis à Lille. J'ai 24 ans à Bordeaux et donc j'ai une vue assez large.
Et vous êtes cheminot ?
Je suis cheminot, oui, tout à fait.
Vous êtes roulant ou pas ?
Pas du tout, je suis en gare.
D'accord, en gare, très bien, je la connais bien. L'île Flandre ou l'île Europe ?
Les deux.
Ouais, très bon, ça va, il y a 10 minutes, même pas 10 minutes à pied entre les deux, donc ça va pour le trajet. Bon, encore une fois, on l'a dit, on n'est pas là pour faire du SNCF bashing, pas du tout. Hein. Mais Yvan, est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, c'est de pire en pire ou pas ?
Oui, je vais déjà parler de la plus grosse cause de retard à la SNCF.
Ouais.
Ce sont les bagages abandonnés. Donc, la plus grosse cause, elle est à l'origine des clients.
Donc, c'est de la faute des voyageurs, quoi.
Mais c'est quoi un bagage abandonné ?
C'est quelqu'un qui oublie son sac.
Mais ça me fascine, cette histoire.
Écoutons, Yvan. Allez-y, Yvan.
J'explique. En fait, à partir du moment où on a. Je vais pas rentrer dans les phases, puisque c'est la structure qui nous impose la gestion du bagage.
Ouais.
À partir d'un moment, on n'a plus la main, en fait. Ouais. Et c'est la police qui décide d'arrêter la circulation des trains. À partir de ce moment-là, nous, on n'a plus la main, donc on peut plus interagir. On évacue la gare, on fait plus circuler les trains. Moi, ça m'est arrivé, ça fait 4 mois que je suis à Lille, ça fait 4 évacuations de gare.
Déjà. Parlez bien de votre téléphone, on vous entend moins bien, Yvan.
Ouais. Donc derrière, ça génère des frais. Hein. Donc hôtel, taxi, quand vous faites 100 chambres d'hôtel, des bus pour Bruxelles avec 70 personnes, des taxis, on en met 3 dans le taxi, des personnes, quand vous en avez 15 à envoyer, à Douai, tu connais la région. Hein.
Mais oui.
Tout ça, ça génère des coûts.
Mais Yvan, comment vous l'expliquez, cette recrudescence de bagages abandonnés, comme on dit, les gens sont de plus en plus... étourdis
je sais pas.
Étourdis
je pense qu'il y a toujours eu des bagages, sauf que la gestion est plus la même.
Ouais, c'est-à-dire que depuis le Vigipirate, les périodes terroristes qu'on a connues, c'est devenu...
Par exemple, à Bruxelles, ils n'ont pas la même gestion. Et
pourtant, ils ont connu la même chose.
Mais nous, on n'a pas le droit d'ouvrir, en fait. Voilà, un bagage, il y a une procédure, on n'a pas le droit d'y toucher. Bon. En fait, c'est la police.
Ça, c'est la première cause de retard. Mais au-delà de ça, Yvan, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais enfin, il y a des chiffres quand même. Les prix des billets sont de plus en plus élevés. En tout cas, ça coûte cher. Le service n'est pas toujours là. On est d'accord ou pas, Yvan ?
Voilà. Alors, j'ai pas la gestion commerciale, moi, de.
Ouais.
Enfin, on entend bien que la gestion des hôtels et tout ça, ça a forcément un impact sur le prix du billet. Après, je sais pas si l'augmentation, c'est une politique. Après, moi, j'ai pas la gestion globale, mais je sais que moi, c'est moi qui fais les hôtels, tout ça. Donc,
les hôtels, c'est pour quand les passagers sont en galère, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand vous avez 100 personnes, 40 euros, imaginez-vous que ça fait un prix, quoi. Et il y a des taxis. Ouais. Plus et il y a des bus, donc forcément ça génère un coût pour la SNCF. Après, moi, la politique, je parlais d'un procédé là, par augmentation des billets sur internet en fonction de l'occupation. Moi, je la gère pas. Moi, je vous parle de mon quotidien. Voilà, les bagages non étiquetés en plus, parce que ça pourrait être réglé facilement. Hein. Si le bagage est étiqueté, on peut la personne. C'est que les bagages,
c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs dans les systématiquement aujourd'hui dans les annonces dans le train. C'est normalement, oui, mais si tu mets Paul, tu me regardes avec gros yeux. Non, mais il a raison. Yvan, il est sur le terrain.
Non, mais tous les trains sont pas en retard parce qu'on met pas des étiquettes sur nos bagages.
Mais non, c'est pas ce qu'il te dit. Moi, je le crois. Yvan, il est sur le terrain.
Bien sûr, évidemment.
Voilà, effectivement, si tout le monde respectait ce qu'on nous demande de faire, déjà, si tout le monde coupait son téléphone quand il monte dans le train, ça serait formidable. Bon, bref.
On s'en fout, ça marche pas.
Non, mais
ça, c'est le seul truc. Comme j'ai trouvé un défaut.
Yvan,
enlève les petits
Yvan,
oiseaux. L'internet dans le train, mais je savais pas. Mais qu'est-ce que cette merde.
Bon, bref. Ça marche pas. Si on était tous respectueux des uns comme les autres, comme ici. Si par exemple, on se parlait pas les uns sur les autres. Donc, si on était tous respectueux, on nous dit, vous étiquetez votre bagage, vous mettez votre numéro de téléphone sur votre bagage. Mais il y a un bagage oublié. Le contrôleur arrive, il appelle. Voilà.
Quand tu oublies ton bagage, c'est que t'as pas de tête. C'est pas que t'as pas d'étiquette.
Il y en a plein.
Yvan, il fait sûrement très bien son travail, mais il nous explique que parce que des gens oublient leur bagage,
du coup, j'ai de l'info.
On va devoir aller dormir à l'hôtel et parce que l'hôtel ça coûte cher. Nous, quand on va acheter nos billets pour un train dans une semaine,
Rémi,
ça fait que ça.
RMC avec vous.
Voilà, RMC avec vous et là. toujours à vos côtés. Donc, c'est une étude menée par l'autorité de la qualité de service dans les transports il y a 2 ans qui disait que la première cause de retard, de l'irrégularité ferroviaire, donc de retard, c'est le vieillissement du réseau faute d'un entretien régulier. Donc c'est pas
moyen, en fait.
Non, mais on est d'accord.
Voilà,
on est d'accord.
C'est pas le bagage
pas
abandonné, quoi.
Son bagage
par ailleurs, on fait pas exprès d'abandonner son bagage parce que c'est quand même pas hyper pratique.
Ouais, bon. Arnaud Aimé est avec nous. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Et merci à Yvan d'avoir été avec nous. Yvan qui nous appelait depuis Lille. Arnaud Aimé, vous êtes spécialiste du transport de dans le cabinet c'est SIA Partners ou SIA Partners ?
SIA Partners.
SIA Partners. Merci d'être avec nous Arnaud Aimé. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, en tout cas on l'entend très souvent parmi ceux qui nous appellent sur RMC au 32-16, est-ce que c'est une vue de l'esprit que de dire aujourd'hui le train ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins fiable ?
Alors il y a une augmentation régulière des prix du train sur le TGV, puisque c'est de ça qu'on parle surtout là. C'est un peu plus de 2% cette année, donc c'est une hausse qui est réelle. Alors les trains ils sont quand même remplis, pourquoi ? Parce que les automobiles, le carburant, les péages, ça augmente aussi et parfois plus vite. Et puis le prix des billets d'avion, lui, il explose. Donc même si le prix du TGV augmente un petit peu cette année, là, d'un peu plus de 2%, bah, ça peut être quand même compétitif pour un certain nombre de personnes. C'est pour ça que les trains restent remplis malgré tout. Après, vous parliez à l'antenne tout à l'heure de ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire la variation un peu dynamique des prix.
Ouais, on optimise, quoi.
Pardon ?
On optimise.
Oui, et pourquoi la rentabilité optimise ? On parlait de privatisation, capitalisme, etc. L'activité TGV de la SNCF, elle n'est pas subventionnée. Autrement dit, ce n'est pas un service public. Et je ne suis pas militant quand je dis ça. Je dis objectivement, l'État ou les régions ne versent pas d'argent à la SNCF pour opérer le TGV et réduire le prix des billets. Donc la SNCF, elle essaie de gagner de l'argent avec le TGV. Il y a d'autres activités, genre les trains régionaux, les TER, pour lesquels c'est subventionné. Donc c'est un service public. Objectivement, une SNCF nationalisée ou pas, dans tous les cas, le TGV n'est pas un service public dans la mesure où il n'est pas subventionné par l'État aujourd'hui.
Arnaud, mais est-ce que le service se détériore aujourd'hui ? On parle de TGV, d'intercité, de TER.
Non, on parle de plusieurs choses avec des situations assez différentes. Je pense qu'on peut croire quand même les cheminots, notamment celui qui est parlé tout à l'heure, à propos des bagages abandonnés, je pense qu'il parlait spécifiquement du TGV. Les TGV, ils circulent sur des LGV, donc des lignes à grande vitesse, qui sont des lignes quand même assez récentes et qui sont bien entretenues. Donc sur cette partie du réseau, on n'a pas trop de problèmes de fiabilité.
C'est le réseau secondaire.
Voilà ce que vous appelez le réseau classique, disons le réseau à ligne classique, où là pour le coup il y a un vieillissement depuis une cinquantaine d'années du réseau ferré. Bah, pourquoi ? Parce que l'État a choisi de mettre son argent ailleurs, dans le développement du réseau routier, autoroutier par exemple. Donc il finance moins la voie ferrée. Donc il y a deux impacts. Le premier, c'est que le réseau ferré classique, eh bien, il s'est détérioré depuis une cinquantaine d'années. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux pour le remettre à niveau, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis la deuxième conséquence, et là ça concerne plus les lignes à grande vitesse, c'est que comme l'État ne met pas beaucoup d'argent, beaucoup moins qu'en Italie ou en Espagne par exemple, dans l'entretien et l'exploitation du réseau ferré, eh bien c'est les transporteurs ferroviaires qui payent davantage de ce qu'on appelle de péage, que ce soit SNCF Voyageurs ou les concurrents qui apparaissent aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça a un impact sur le prix du billet. Donc il y a un sujet d'implication des pouvoirs publics dans l'infrastructure ferroviaire.
Il y a des choix politiques à faire, en tout cas c'est certain, et on va avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée, on verra ce qu'elle nous dit. Merci Arnaud Aimé d'avoir été avec nous, spécialiste transport du cabinet SIA Partners. Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, je ne vous le cache pas Antoine, mais je tenais à vous donner la parole. Vous êtes dans la Sarthe, c'est ça ?
Exactement.
Et vous prenez régulièrement le train ?
Quasiment quotidiennement, j'ai un abonnement avec la SNCF pour faire le Mans-Paris, donc, et un abonnement assez coûteux, hein, c'est quand même plus de 600 euros par mois.
Et comment ça marche ? Il fait l'aller-retour tous les jours.
Pas tous les jours.
600 par mois ?
Avec un abonnement, c'est un des problèmes, avec un abonnement quand même de 609 euros par mois pour faire Le Mans-Paris, c'est seulement 55 minutes de train.
Ouais.
On ne peut faire que 4 à 5 voyages par semaine.
Donc, ah ouais ?
C'est un loyer, 600 par mois.
Bon, et comment ça marche ?
Ça marche pas bien, toujours des retards, plein de retards. Moi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui n'est pas militant du tout, pas réfractaire à quoi que ce soit. Et je crois que j'ai jamais mis les pieds dans une manifestation. Je pense que si un jour il devait y avoir une manifestation anti-SNCF, je crois que ça sera ma première manifestation. en tête de cortège.
Pourquoi, rapidement?
C'est tout, c'est le prix. Bah, rien que quand je veux partir en vacances, bah, je ne prends jamais le train. C'est les retards. Tout à l'heure, vous parlez d'un monsieur qui nous disait que les retards étaient liés au bagages abandonnés. J'en ai jamais eu. Hein. Ça fait 2 ans que je fais quasiment quotidiennement. C'est jamais de bagages abandonnés. Moi, c'est des problèmes de signalisation qui vous mettent 30 minutes dans les carreaux, une heure dans les carreaux. Vous arrivez en retard au travail. Donc voilà. Et puis le comportement.
Et moi, j'ai souvent difficulté de préparation du matériel aussi.
Ouais,
j'ai eu ça aussi.
Bah, ils ont des difficultés pour préparer le matériel.
Pour acheminer le.
Bon, en tout cas, c'est une vraie galère pour vous, Antoine.
Ouais, une galère au quotidien. Et puis aussi, certains comportements d'agents que je trouve qu'ils sont en manque de compréhension pour dès qu'il y a un petit couac, alors qu'on paye quand même des abonnements, par exemple, 600 € par mois. Par exemple, il y a quelques semaines, même avec un abonnement à ce prix-là, je me suis trompé de train. Parce qu'au Mans, vous pouvez aller à Gare Montparnasse, et des fois aussi, vous avez des trains qui vont à l'aéroport.
C'était
sur le même quai, j'ai pris aéroport.
Ouais,
c'est
bon, ce qui peut arriver, oui.
Et du coup, j'avais pas le bon abonnement pour ça. Et on m'a mis une amende quand même.
Oh.
600 €, j'ai voulu faire une réclamation, ça n'a jamais abouti.
Oh,
il faut continuer, il faut insister pour les réclamations, ça finit toujours par marcher.
Merci.
J'ai eu le service juridique et ils m'ont dit non, j'ai fini par leur dire que vous étiez les l'entreprise la plus détestable de France, elle m'a raccroché le nom.
Envoyez-moi un mail, RMC avec vous à rmc.fr, voilà. Je m'en occupe.
Voilà, merci Antoine d'avoir été avec nous, et on va le regarder en ligne et puis on va lui donner l'adresse. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Antoine qui nous appelait depuis la Sarthe, on vous a posé la question, prix, retard, grève, la SNCF, vous fait-elle détester le train?
Eh bien, c'est un grand oui pour 88%.
Bon, voilà. Au niveau de la communication, il y a encore du boulot. Allez, dans un instant, les Français en direct. Notre tour de France des législatives. C'est vous, on vous donne la parole. Vous en êtes où durant cet entre-deux tours? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez quoi? Eh bien, c'est dans un instant sur RMC et RMC Story. Dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi, Rémi Barret.
Estelle, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes dans l'entre-deux-tours des législatives. Vous en êtes où? La direction, les Hautes-Pyrénées.
RMC, les Français en direct.
Les Français en direct, on prend le pouls du pays dans cet entre-deux-tours des législatives. Et dans les Hautes-Pyrénées, on retrouve Pierre Bourgès, reporter RMC. Salut Pierre.
Salut Rémi, bonjour à toute l'équipe.
Alors bonjour. On est avec qui, Pierre?
Eh bien, on est avec Benjamin et je vais pas vous mentir, on va pas tarder à prendre le café ici puisque en fait on est eh ben oui, on est dans son café tout simplement. Alors c'est un peu réducteur de dire café, excuse-moi Benjamin, mais on est dans un café espace de coworking avec une petite boutique qui vend des produits français si je me trompe pas. Donc voilà, espace un peu je pense que vous avez peut-être un petit peu l'image, espace un petit peu chaleureux,
tout à fait.
Mur, un peu de verdure et puis des bons canapés. Ouais, nous on s'est mis sur des chaises quand même, pour être un petit peu sérieux. Et donc Benjamin, 36 ans, électeur historique de gauche, il a voté Nouveau Front Populaire au premier tour, il votera Nouveau Front Populaire au second tour, et il a le casque sur les oreilles, donc il vous entend.
Ah bah très bien, bonjour Benjamin.
Bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, merci d'être avec nous Benjamin. Avec Benjamin, vous êtes dans quel état d'esprit là? On est à quelques jours du second tour.
Bon, moi je suis un éternel optimiste, donc il faut partir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un contexte, la politique, qui est un peu effrayant. Voilà, donc on essaie de garder le moral, mais c'est vrai que ça devient inquiétant quand même.
Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement?
Bon, allez, on va pas y aller par quatre chemins. C'est le score du RN, hein, tout simplement. Donc, qu'il faut que tous les opinions s'expriment, c'est la hauteur des scores qui est très inquiétante.
Sans rentrer dans la circonscription dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a le principe du temps de parole, vous le savez. On vous a briefé avant. Dans votre circonscription, grosso modo, le RN, il a fait combien?
Un peu plus d'un tiers, voilà. Un peu plus de 30%. Voilà.
C'était déjà le cas avant ou pas?
Non, ça a beaucoup explosé les dernières années, mais c'est une tendance à l'augmentation qui se dégageait sur les dernières élections. Oui.
Le SMIC à 1600 €, vous y croyez?
Eh bien, écoutez, pourquoi pas?
Parce que c'est un vote de conviction pour le programme que vous faites.
Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis chef d'entreprise, donc ça paraît des fois très bizarre d'un point de vue extérieur. Ça paraît même d'être le grand écart. Mais pour moi, je pense que je suis tout petit commerçant en fait, commerçant de centre-ville. Si on n'est pas capable de se serrer un peu les coudes et que tout le monde ait un revenu décent, les petits commerces, on sera les premiers à disparaître. Hein, ça, on ne se fait plus d'illusions.
Pierre Bourgès, il m'entend. Pierre, tu m'entends?
Bien sûr.
C'est intéressant ce que nous dit Benjamin. Pierre, toi qui es sur place là, dans les Hautes-Pyrénées, quel est l'état d'esprit des gens que tu as pu rencontrer?
Bah écoute, l'état d'esprit, il est assez particulier. On reste quand même dans une zone qui est un peu rurale. On a un petit peu de tout. Les jeunes, pour l'instant, sont quand même, pour certains, convaincus qu'il faut voter le nouveau Front populaire parce que c'est leur avenir et qu'il faut aussi. Il y a beaucoup ce projet d'immigration du RN qui fait peur pour les jeunes et qui veulent aider les autres. De l'autre côté, on a certains jeunes qui se disent non, mais moi déjà j'ai l'impression que je vais galérer. Est-ce que je vais continuer à galérer? Si on ne met pas sur le pouvoir d'achat, certains me disent très honnêtement, si on continue à faire entrer des personnes, est-ce que vraiment moi de mon côté ne pas y perdre? Voilà. Et puis alors plus globalement, il y a vraiment de tout au niveau des électeurs, mais les électeurs RN parlent ici en tout cas beaucoup d'immigration. Il faut quand même le dire. On parle d'immigration ou parfois même, et j'en terminerai là-dessus, mais parfois ils disent moi sur TikTok je le suis, Bardella, et je trouve qu'il est premier ministrable, si je peux me permettre l'expression. Je sais pas trop ce qu'il y a dans son programme, mais je trouve qu'il a l'aura pour être premier ministre.
Compris. Merci Pierre Bourgès d'avoir été avec nous, reporter RMC depuis les Hautes-Pyrénées. Merci également à Benjamin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et donc les Français en direct, c'est comme ça tout au long de cette semaine, entre deux tours, avant le second tour des législatives. Allez, dans un instant, comme tous les jours, c'est la suite d'Estelle Midi avec notre zapping, le meilleur du jour sur RMC. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. Pour ou contre l'interdiction des désistements entre les deux tours? Il y aurait actuellement 150 candidats qui souhaitent se désister pour le second tour, pour faire barrage essentiellement au Rassemblement National. Mais pour le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, ces désistements devraient être interdits.
Parce qu'il y a une règle du jeu qui est clairement inscrite dans notre code électoral. Vous avez la possibilité d'être qualifié pour le second tour à partir de 12,5% des inscrits. Avec le taux de participation historique, ça a été souligné dimanche. Depuis des décennies, nous n'avions pas eu ce taux de participation et donc nous n'avons pas été confrontés à ces triangulaires. Et je pense que les désistements...
Et on en aura vraisemblablement moitié moins.
Moitié moins, voire même un peu plus, puisque les appareils politiques sont encore en train de négocier circonscription par circonscription. Donc en fait, mécaniquement, on réduit l'offre politique du second tour et on maquille en fait le résultat du premier tour pour le second tour.
Amélie, d'ailleurs ça a augmenté, tout ça c'était Apolline Matin ce matin. Désormais on n'est plus à 150 désistements.
On est autour de 190.
190. Est-ce que toi tu penses, comme ce député des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, député LR, qu'il faudrait... c'est pas normal ces désistements quelquefois?
Sincèrement, j'ai du mal à avoir une position tranchée. En tout cas, je trouve qu'il faut trancher, c'est-à-dire que porter la parole de se dire je vais porter un programme, voilà qui je suis, votez pour moi, et derrière se dire en fait non, je suis un peu mal à l'aise, en fait j'ai un peu le sentiment que c'est une façon de se boucher le nez, de pas regarder et de se défiler.
On se met à la place de l'électeur. On parlait tout à l'heure des électeurs qui doivent, ce qu'on leur disait tout à l'heure, il faut regarder les programmes qui est fait personne. Moi je me mets à la place, je suis électeur, il y a quelqu'un au premier tour,
je crois en cette personne, je crois en ce qui me, ça m'intéresse, son programme, je vote pour lui, puis au deuxième, bah, je peux plus.
Alors, j'entendais un candidat,
il va s'associer avec un mec que le gars détestait trois jours avant.
Il y avait un candidat qui était en triangulaire et qui a décidé, pour le coup, je crois que c'était un ensemble, je me souviens plus, à Circo, et puis tant mieux, comme ça, on n'ouvre rien du tout, et qui expliquait, en fait, ce matin, à la radio, pourquoi il se désistait, et qu'en fait, il a pris ce vote, et le fait qu'il soit arrivé troisième, comme une véritable claque. Il disait que ça faisait des années qu'il était élu et que cette claque, lui, sa façon de l'accueillir, c'était de se dire, ok, vous m'avez mis une claque, vous m'avez dit, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi, donc je me retire et je laisse les autres faire. J'entends aussi cette position qui me paraît pas complètement, complètement délirante. Et après, sur le fond, en termes de stratégie, ceux qui considèrent que la stratégie qu'il faut avoir, c'est faire barrage, peu importe pour qui, bah, c'est une bonne stratégie, voilà.
Et c'est le choix de chaque citoyen, d'ailleurs, d'aller voter en son âme et conscience et en toute bonne foi pour tel ou tel candidat.
Puis le vote blanc existe, enfin.
Le vote blanc existe, ne pas aller voter, ça existe, l'abstention existe. Si tu dis, je te rejoins, Rémi, on a défendu, on a lu un programme, on a défendu un candidat au premier tour et il se désiste, bah, au second tour, personne n'est obligé d'aller voter pour le candidat d'Emmanuel Macron ou du Front Populaire ou du Rassemblement National. C'est juste voter. Moi, au-delà de ça, dans ce débat-là, ce qui est important et que je voudrais vraiment, moi, je milite pour ça, c'est que on arrive à la fin de la Ve République, en tout cas du fonctionnement de cette élection. On voit bien, et Daniel le disait très bien d'ailleurs au tout début de l'émission, en disant que maintenant il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de dignité, on va plus voter pour ce qu'on pense et ce qu'on croit, mais on va voter contre quelqu'un. Ouais. On arrive au bout. Je suis vraiment, moi, de plus en plus pour un système à la proportionnelle, à un tour. On vote totalement pour ses convictions, pour ses idées. À la fin, on fera 10% et 15%. On aura 10% des sièges à l'Assemblée et on fera des ententes, des coalitions, des accords de parti. Mais on n'ira pas comme ça en permanence à s'opposer avec quelqu'un juste parce que c'est l'opposition.
Daniel.
Souvent, ces désistements, ça ressemble en tout cas de plus en plus là, sur ces derniers jours, à des petites trahisons. Donc moi je vais effectivement dans le sens de Pierre, je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Longtemps,
comme quoi
cette Ve République et ce système à deux tours, c'était pour empêcher ce qu'on pouvait appeler le bordel à l'Assemblée, parce qu'on avait ce vieux souvenir de la 4e République qui était quelque chose un peu fort dans notre histoire politique. Maintenant, il y a plein de pays qui fonctionnent autrement, avec des gouvernements qui parfois, bon, restent pas très longtemps et on remonte d'autres gouvernements. Mais là, on va probablement se retrouver face à une crise politique majeure, avec des gens qui trahissent leurs convictions pour aller s'associer avec des gens qu'ils insultaient il y a une semaine. Et effectivement, moi, je crois que la proportionnelle, eh bien, au moins, t'es droit dans tes bottes, dans tes convictions, tu votes pour ton parti, tu te retrouves à l'Assemblée, tu dis, ben moi, sur ce thème-là, je suis d'accord avec toi, on va voir si on peut faire passer cette loi. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Le plus gros des partis s'associe avec un autre pour déterminer qui est le Premier ministre. Tu votes la confiance au gouvernement. Et puis t'avances comme ça.
Sachant que la proportionnelle,
il va falloir réformer. La proportionnelle, c'est quand même.
Sachant Daniel,
que c'est une promesse que font tous les candidats.
Et sachant Daniel, souviens-toi.
Des années.
Et souviens-toi, Daniel, que la proportionnelle, ça a été longtemps un débat. On n'en voulait pas. Enfin, certains l'ont rejeté parce qu'on avait peur que le RN soit trop présent à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Bah, Mitterrand l'a testé en partie en 86 ou 7, il me semble.
C'était et pour faire monter le RN. C'était une stratégie politique pour faire monter le RN.
C'était pour faire monter le RN.
On dit que Mitterrand est l'inventeur du Rassemblement national.
Et pourtant, mécaniquement, la proportionnelle, ça fait baisser les clivages, puisqu'il ne peut pas y avoir de clivage droite-gauche de la même manière.
Allez, les GG, la suspension de la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça peut séduire la gauche? Hier, Gabriel Attal a suspendu la mise en œuvre de sa réforme, qui devait notamment diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs, une façon de donner des gages au nouveau Front Populaire, d'après l'entourage de l'ex-premier ministre, mais qui scandalise le cheminot des GG, Bruno Poncet. Ex-premier ministre, vous êtes toujours.
Non, mais c'est dingue. Rappelle-toi, au soir que des européennes, il dit, voilà, je dissous, machin et tout. La seule réforme que je maintiens, c'est celle-là.
Oui.
Genre, pour dire, les copains de droite, venez toujours avec moi, je suis toujours aussi bien.
Et d'un seul coup. Le deuxième tour, il y a besoin de la gauche.
Ouais, il y a besoin de la gauche, donc maintenant, non, mais c'est. Enfin, tu vois, aujourd'hui, là,
elle est un peu grosse, quand même.
Tu vois, ça fait deux ans que je suis chez vous, je sais que Barbara, ça fait plus longtemps. Ça fait quand même un bout de temps que tout le monde critique Macron en disant putain ces gouvernements,
pas putain, on
dit. Excusez-moi, je prostituée, tous ces gens là qui travaillent, qui sont dans ce gouvernement, ça tourne dans tous les sens, ça virevolte, ça dit blanc, ça dit noir et tout. Et là d'un seul coup, tu vois, là comme t'es dans l'urgence,
c'est du pragmatisme.
Ouais, bah, c'est plus du pragmatisme, c'est même pire que tout. C'est même plus l'opportunisme. Là t'es dans l'urgence et ben là tu vois ils sont capables de tout, n'importe quoi.
Moi, c'est de la panique ou c'est du pragmatisme, Pierre?
Bah, mais c'est surtout lamentable, Daniel.
Surtout, en plus, au-delà de ça, croire qu'un électeur de gauche irait bêtement ou naïvement immédiatement se jeter sur la Macronie ensemble parce que Gabriel Attal suspend son décret pour la réforme de la... Ah,
ils sont peut-être prêts à faire des efforts, non, mais des efforts, Pierre.
Attendez, l'électeur de gauche, et on en revient encore une fois sur cette question de conviction et d'idéologie, l'électeur de gauche qui a vécu 7 ans de Macronie avec la réforme des retraites, avec les gilets jaunes, avec la réforme de l'assurance chômage, il va pas ensuite aller mettre son bulletin avec un grand sourire pour Emmanuel Macron et pour le groupe Ensemble. Oui, il ira peut-être faire, et d'ailleurs je l'espère, il fera barrage au Front National, au Rassemblement National, mais pour autant, il ne va pas être content de voter pour Emmanuel Macron et la majorité présidentielle.
Daniel ? Oui, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, c'est lamentable.
Ça m'inquiète, ils sont
d'accord. D'avis en 3 jours, c'est...
Mélie.
Je sais pas, tout ce que je vois, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est le spectacle de l'indignité, des convictions reniées, des gens à qui on tend la main alors qu'on leur crachait dessus une semaine avant. Ouais. Moi, tout ça me dégoûte.
Amélie.
Moi, ce que je vois surtout, pas que je sois ravie de la réforme de l'assurance chômage et que je sois pas non ravie de sa suspension, mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que toute cette période politique et la dissolution a eu des conséquences très concrètes et rien à voir, mais je pense notamment quand même à la question de la fin de vie où on était quand même sur un texte et ça c'est repoussé à quand au calendrier, il y a déjà la situation politique fait qu'aujourd'hui en termes de réforme quelle qu'elle soit, je sais pas combien de retard on va prendre, mais on va en prendre sacrément.
Charles Matin, où acheter sa baguette au meilleur prix? Pour le savoir, l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, a étudié les prix de toutes les enseignes de vente de pain en France. Et Emmanuel Le Chypre nous a dévoilé ce matin les endroits où vous trouverez la baguette la moins chère, et pas forcément la meilleure.
Le verdict, c'est que la baguette classique coûte 1,07€ en moyenne en boulangerie, 60 centimes seulement en grande distribution, sachant que la baguette est encore moins chère chez Lidl, Aldi ou Leclerc que chez Auchan, Carrefour et Système U. Si vous privilégiez la qualité, il vous en coûtera en moyenne 1,24€ pour une baguette de tradition en boulangerie, 1,27€ pour une baguette bio en grande surface. Ce surcoût par rapport à la baguette classique, garantit notamment l'absence de congélation et de tout additif.
Amélie, tu lâchais tout ta baguette?
En bas de chez moi, il y a 3 boulangeries.
Ouais, t'habites Paris en même temps.
Ouais, j'habite dans
boulangerie en bas de chez toi. Donc,
la baguette est bonne, pas très chère.
On est à Paris. Tu as payé combien?
1,30€.
1,30€.
Ah, c'est cher, 1,30€.
Bah, c'est Paris, quoi.
La tradie, moi, j'ai payé 1,10€.
Toi, t'es à Gentilly, en banlieue parisienne.
Je suis littéralement en face de Paris. Je suis à Cité U et on me dit, t'es un banlieusard.
Non, mais donc la baguette,
Paris.
Là, je tombe des nuls.
Daniel, vas-y.
Oui, j'ai déménagé, Daniel.
Je tombe des. Pierre Rondeau n'habite pas dans le 3e arrondissement.
Non.
Plus maintenant,
non,
Daniel.
Je pensais qu'il habitait à côté
Non. C'est devenu. Il est passé de. Il est passé de bobo parisien à la banlieue rouge.
Ah ouais, mais je savais pas, là, je suis un peu choqué, pardon.
Bon, toi, tu lâchais tout ta baguette.
Bah, la boulangerie à côté de la maison, globalement, c'est là qu'on va.
Et tu l'as payé combien?
Non, commerce de proximité par excellence.
Mais encore faut-il que tu aies une boulangerie à côté de chez toi. On parlait de la semaine dernière de la facture territoriale. Non, la facture territoriale,
c'est vrai,
communes en France, de villages, etc. T'en as plus, de boulangerie.
T'as les dépôts de pain, loin.
Même si elle est loin, c'est que tu vas quand même dans la plus proche de chez toi.
Oui, mais alors ma question, ça sera celle-là. Vous êtes prêt à mettre le prix pour avoir du bon pain?
Ah, ça oui, en revanche.
Moi, oui.
Ça oui, parce que vraiment, là, la baguette de c'est très rare qu'elle soit bonne.
Ah oui, quitte à rogner, à pas manger moins de viande, j'en sais rien, mais le pain, quoi.
À Paris, il y a une exagération, c'est un peu cher.
Allez.
Après, je peux comprendre, leurs coûts sont plus élevés, la boutique, tout ça.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Le RMC Euro 2024, les Bleus qualifiés pour les quarts de finale, est-ce vraiment mérité? L'équipe de France a battu hier la Belgique 1-0, but contre Socan d'un joueur belge. Ils vont donc, ces Bleus, retrouver le Portugal en quart de finale et les supporters français rencontrés par RMC à la sortie du match se réjouissaient malgré toute cette victoire.
Ouais, ça fait du bien, on a beaucoup stressé, mais encore une fois, on n'a pas marqué un vrai but, toujours contre Saint-Cours, mais la victoire est là.
Ils nous ont fait exactement les mêmes matchs qu'en poule, très solide en bas, très solide au milieu, et le manque d'efficacité devant. Mais le principal, c'est de gagner.
Incroyable, Colomani, cette entrée, elle est parfaite, m'ont fait rêver, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout maintenant. Vive la France! Vive la France!
Désolé pour les oreilles chastes qui nous écoutent, mais Pierre Rondeau, pendant que le sujet passait, nous disait ça nous fait rêver, tu parles, on s'est fait chier pendant 90 minutes. Daniel, c'est vrai que c'était, on s'est un peu ennuyé, mais malgré tout, Bah, y a une victoire, c'est concret, on gagne 1-0, bon voilà, on est en quart de finale.
Absolument. Alors déjà pour commencer, je renvoie l'analyse du match au podcast de l'After Foot d'hier soir.
Bah, évidemment, ouais. tu fais bien.
Et oui, mais c'est la méthode et c'est la façon de jouer de cette équipe de France depuis des années maintenant. C'est sans panache, sans style et efficace. C'est le style des champs. Maintenant, il faut jamais oublier que l'équipe nationale, c'est avant tout de l'émotion. Alors, il y en a, quand on regarde les Bleus, de l'émotion uniquement provoquée par le résultat. D'ailleurs, les gens qu'on a entendus, c'est des gens qui sortent du stade. Quand tu vas au stade, tu veux voir ton équipe gagner.
Bah ouais.
Quand t'es Pierre Rondeau, t'es dans ton canapé en cuir,
ouais.
À Gentilly.
Non, pas en cuir.
T'as envie de
en Sky.
T'as envie de t'amuser. T'as envie d'avoir également du beau jeu. Et je pense effectivement que quand tu regardes jouer l'Espagne, je pense que le supporter espagnol, il a plus de plaisir que le supporter français.
Ouais.
Mais chacun son.
Est-ce
style.
Que ça peut venir, Daniel? Est-ce que ça peut venir là pour à partir des
cartes? Non,
des
ça viendra pas. De... C'est un style.
Il y aura pas de déclic.
C'est un style. C'est difficile de changer de style quand t'es habitué à aller t'habiller dans une enseigne et tu mets tout le, des fringues, ouais. C'est compliqué. Essaye de changer de style, ça te va pas, tu reviens à ce que tu sais
je
faire.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, on était champion du monde. Les matchs de phase de poule étaient les plus ennuyeux possibles, même en 2022, pareil en 2024.
Tu le sais très bien, l'équipe de France, c'est un pantacourt avec claquettes.
Très bien.
Avec ou sans chaussettes.
Mais pour l'été, tu sais quoi, le pantacourt et les claquettes pour l'été, on s'en contentera. Si on va jusqu'au bout.
Oui et non.
Ouais, allez,
non.
Allez,
c'est quand même.
Allez, c'est fini Estelle Midi pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'intégrale tour sur RMC. On retrouve qui évidemment Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bah, nous aussi on est en pantacourt et claquettes hein, c'est
bah, voilà, mais voilà.
Même le Bob Cochonou en plus.
Bah, formidable. Après 3 jours en Italie, Christophe, ça y est, on est en France, première étape et alors quelle étape
hein. Étape extraordinaire effectivement, c'est la première étape de montagne. Alors le peloton n'est pas encore en France, il se trouve encore sur le territoire italien. Il va d'abord monter jusqu'à Sestrières, ensuite il faudra descendre et ensuite on passera la frontière, c'est la première étape de montagne et après Sestrières, il faudra s'infuser le Galibier qui est l'un des cols les plus durs évidemment de ce Tour de France, surtout très haut, plus de 2600 mètres d'altitude. La grande bagarre peut-être pour aujourd'hui, on va vivre ça puisqu'on est ensemble jusqu'à 18h pour cette quatrième étape de l'Intégrale Tour. Rémi,
merci beaucoup Christophe. Intégrale Tour tout de suite donc, et nous, et c'est à midi, on se retrouve demain à partir de midi sur RMC et RMC Story. À demain
RMC jusqu'à 18h.
Intégrale Tour.